VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du mardi 8 septembre 2015. Bagassi Koura et Anne Alberson en votre compagnie au sommaire ce matin.
Deuxième jour ce mardi du procès Hissène Habré au Sénégal. Hier, l'ancien président tchadien n'a pas voulu comparaître à l'audience, mais il a été contraint.
Le président Kam a menti en prétendant que le président Habré avait été amené de son plein gré au tribunal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas dans la salle.
Les recherches se poursuivent au large du Sénégal pour retrouver un avion d'évacuation médicale qui a disparu samedi soir.
Au Nigeria, l'armée gagne du terrain contre le groupe Boko Haram, selon le président Muhammadu Buhari.
Le flot des réfugiés en Europe pourrait être une bonne chose, selon un économiste.
La plupart des migrants sont relativement jeunes, espèrent obtenir un emploi et vont finir par payer des impôts.
Et bien sûr, vous aurez la Minute Éco et les sports, c'est dans une dizaine de minutes.
Deuxième jour ce mardi du procès Hissène Habré au Sénégal. Hier, l'ancien président tchadien n'a pas voulu comparaître à l'audience, mais il a été contraint. Une fois de plus, M. Habré a récusé les chambres africaines extraordinaires et ses avocats commis d'office. Les conseils que l'ancien président tchadien avait choisis ne veulent pas non plus assister à ce qu'il qualifie de mascarade. Le reportage de Sortna Natambaye, notre correspondante à Dakar.
Le procès de Hissène Habré a repris sur fond de violence. L'ancien président tchadien n'a pas voulu se présenter et le président des chambres africaines extraordinaires a fait appel à un huissier pour constater cette absence. Après une suspension d'audience de 45 minutes, la cour a fait appel aux éléments pénitentiaires d'intervention. 10 d'entre eux l'ont amené manu militari et 4 l'ont forcé à s'asseoir sur un siège. Ce sont des avocats de la défense excédée qui s'expriment. Maître François Serre.
On est dans une situation de violence absolue. Le président Kam, aujourd'hui, s'est inscrit dans un processus de mensonge. Le président Kam a menti en prétendant que le président Habré avait été amené de son plein gré au tribunal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas dans la salle.
Maître François Serre et maître Ibrahima Diawara, les deux seuls avocats reconnus par Habré, n'ont pas assisté à l'audience. C'est leur stratégie de défense. Quant à l'accusation, elle condamne également cette méthode tout en dénonçant l'attitude de la partie adverse. Georges-Henri Bautier, l'un des avocats des parties civiles.
Il a le droit de ne pas avoir de conseil, le droit de ses défenses tout seul et la cour a le droit de lui désigner des avocats d'office.
La défense a par ailleurs fait état d'une manipulation de la liste des témoins à décharge. Sorna Natambaye, Dakar, VOA Afrique.
Les recherches se poursuivaient lundi au large du Sénégal pour retrouver un avion d'évacuation médicale qui a disparu samedi soir. L'appareil transportait 7 personnes, dont une patiente française du Burkina Faso au Sénégal, rapporte l'AFP, citant des sources concordantes. La ministre sénégalaise du Tourisme et des Transports Aériens, Maïmouna Ndok Sek, a par ailleurs confirmé lors d'une conférence de presse lundi soir l'hypothèse d'une collision entre l'appareil et un Boeing de la compagnie équato-guinéenne Seba, citant le rapport du pilote faisant état de dégâts à l'aile.
Au Nigeria, l'armée gagne du terrain contre le groupe Boko Haram, selon le président Muhammadu Buhari. Il a fait état des bons résultats de son armée au Ghana, où il est arrivé hier pour une visite. Le point avec Eddy Issango.
Les insurgés de Boko Haram sont pratiquement confinés à la zone isolée de la forêt de Sambisa, dans l'état nord-est de Borno, a déclaré M. Buhari, qui vient de passer 3 mois au pouvoir. S'adressant à la presse, le chef de l'État nigérian, qui avait affirmé à son investiture que Boko Haram sera sa principale priorité, a indiqué que beaucoup de progrès ont été accomplis. Il en veut pour preuve le retour de beaucoup de déplacés parmi les 2,1 millions de Nigérians qui avaient fui en 6 ans les attaques des islamistes. Le président nigérian est beaucoup critiqué pour sa lenteur à agir. Il n'a toujours pas formé son gouvernement. Le 3 août, M. Buhari avait donné 3 mois aux forces armées, à la tête de laquelle il avait nommé des nouveaux chefs pour en finir avec Boko Haram. Ces délais passés et le groupe des djihadistes poursuit ses attaques dans les pays et dans la région. Une force d'intervention multinationale des 8700 hommes devant être constituée par les Niger, les Nigeria, les Tchad, les Cameroun et le Bénin est toujours attendu.
Enfin, un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau. Après une longue attente, les Bissau-Guinéens ont connu hier les membres du nouveau gouvernement dirigé par Bassirou Dia de Bissau, la correspondance de Noah Mankali.
C'est un gouvernement qui est composé de 30 membres, dont 15 portefeuilles ministériels et 15 secrétariats d'État. La particularité de ce nouveau gouvernement est qu'il n'existe pas de ministère de l'économie et des finances, mais le nombre de femmes est maintenu. Il y en avait 5 dans le gouvernement antérieur. Parmi les anciens ministres, seuls 3 ont été reconduits, notamment Florentine Mendes Pereira de l'énergie et de l'industrie, Octave Alves de l'administration interne et enfin Anthony Serif Imbalo du commerce. Après l'investiture des membres du gouvernement, le président de la République, José Mario Vaz, a encore insisté sur la lutte contre la corruption, la transparence sur la gestion des biens publics et le travail. On rappelle cependant que la Cour suprême se prononcera sur la validité ou non du décret présidentiel qui avait nommé le premier ministre Bassirou Dia le 12 août dernier, dont la nomination a été très contestée par certains membres du PAIGC et de la classe politique bissau-guinéenne dans l'opposition. Nouaman Kalibissa, VOA Afrique.
La Cour pénale internationale demande à l'Afrique du Sud de s'expliquer pour n'avoir pas arrêté Omar el-Béchir en juin dernier. Le président soudanais avait bravé une fois de plus le mandat d'arrêt de la justice internationale en se rendant sans inquiétude dans un pays signataire de l'accord de Rome.
La forêt recule, mais moins vite qu'avant, dit en substance le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, José Graciano da Silva, et d'ajouter que les forêts plantées seront aussi en augmentation pour répondre aux besoins croissants de l'humanité. Un rapport publié par l'organisation ce lundi à l'ouverture du 14e sommet forestier mondial à Durban, en Afrique du Sud, souligne toutefois que ces bonnes nouvelles doivent nous garder vigilants. La superficie forestière a diminué de 3,1% en un quart de siècle, soit une superficie équivalente à celle de l'Afrique du Sud, qui a donc disparu depuis 1990. Les plus touchés sont donc les tropiques, particulièrement en Amérique du Sud et l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France et l'Allemagne se disent prêtes à accueillir des dizaines de milliers de migrants, faisant craindre un surpoids pour leur budget. Mais le flot de réfugiés en provenance de Syrie et d'autres pays déchirés par la guerre pourrait éventuellement être une bonne chose, selon un expert de l'Institut d'économie internationale Peterson, ici à Washington, Chérubin Dorsil.
L'économiste Jacob Kierkegaard souligne que l'année dernière, peut-être 1 million de migrants sont arrivés en Europe et 2015 peut voir un afflux de centaines de milliers de nouveaux arrivants. L'Allemagne, qui compte recevoir au bout du compte jusqu'à 800 000 migrants, est un pays riche, mais la situation n'est pas la même partout. Cet exode massif se traduit par un coût significatif à court terme, car après tout, il faut nourrir, loger et donner des cours de langue aux réfugiés pour faciliter leur intégration dans leur pays d'accueil. À cette fin, Berlin a prévu des dépenses additionnelles de près de 7 milliards de dollars l'an prochain. En revanche, dit Kierkegaard, l'Allemagne et certains autres pays européens ont des populations vieillissantes et ont besoin d'une force de travail renouvelée pour poursuivre la croissance économique. La plupart des migrants sont relativement jeunes, espèrent obtenir un emploi et vont finir par payer des impôts. Selon le chercheur, les dépenses publiques pour aider à prendre soin des migrants contribueront aussi à stimuler l'économie chancelante de l'Europe. La France, qui a promis d'accueillir sur 2 ans jusqu'à 24 000 migrants, privilégie la concertation européenne afin de trouver une solution durable à la crise migratoire actuelle sur le continent.
L'armée de l'air britannique a tué 3 militants du groupe État islamique en Syrie, dont 2 britanniques le mois dernier. C'est la première étape attaque de ce genre, selon le Premier ministre David Cameron, qualifiant l'attaque de drone du 21 août dernier d'acte d'autodéfense. Cameron a affirmé qu'il y avait des preuves montrant clairement que ces individus étaient impliqués dans la planification d'attaques armées contre le Royaume-Uni.
Une soixantaine d'États doivent prendre part ce mardi à une conférence internationale à Paris sur le sort des minorités face au groupe État islamique. Des sources diplomatiques ont confirmé à l'AFP que lors de cette rencontre, un plan d'action sera dévoilé. Il prévoit dans ses grandes lignes de préparer et faciliter le retour volontaire et durable des déplacés, promouvoir des solutions politiques respectueuses des droits de l'homme et mettre fin à l'impunité de ceux qui ont commis des crimes contre les populations pour des raisons d'appartenance ethnique. ethnique ou de conviction religieuse. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du gouvernement français. La conférence sera ouverte par le président François Hollande.
Par ailleurs, le président français a appelé ses homologues allemands, russes et ukrainiens à une réunion à Paris pour l'accord de paix dans l'est de l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse lundi à Paris, Hollande a déclaré que la rencontre se tiendra avant le début de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre le 15 septembre prochain. Les quatre chefs d'État s'entretiendront par téléphone demain mercredi et leurs ministres des Affaires étrangères auront une rencontre samedi à Berlin en Allemagne, indique l'AFP citant l'entourage du président français.
Enfin, ici aux États-Unis, quelques 300 000 employés des entreprises contractuelles du gouvernement fédéral vont bénéficier de congés maladie. L'annonce en a été faite hier par le président Barack Obama à l'occasion de la fête du travail. Obama a regretté que les États-Unis soient la seule puissance économique du monde qui ne garantit pas de congés maladie payés ou de congés maternité payés à tous les gens qui travaillent aux États-Unis.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Lionel Gaïman.
Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières, a annoncé lundi la suspension pour 18 mois de la production de cuivre dans deux de ses mines, en Zambie et en RD Congo. Parmi les autres mesures annoncées, la mise en vente d'actifs dont la société espère retirer 2 milliards de dollars. Ces initiatives ont été saluées chaudement à la Bourse de Londres, où le titre bondissait de 10,48%. La Chine a annoncé une révision à la baisse de la croissance de son PIB en 2014, aggravant les inquiétudes sur le ralentissement de son économie. Le chiffre définitif sera connu en janvier prochain. L'objectif des autorités chinoises est de parvenir à une croissance d'environ 7% en 2015, un objectif qui laisse les analystes sceptiques. La Chine représente 13% du produit intérieur brut mondial. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le distributeur de biens culturels et technologiques FNAC ouvre bientôt deux points de vente en Côte d'Ivoire en alliance avec le groupe Prosuma, leader ivoirien de la grande distribution. Ces nouveaux magasins proposeront l'ensemble des produits et services de la FNAC, livres, disques, DVD, entre autres.
Vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, c'est l'heure des sports et c'est avec Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
Suite aujourd'hui de l'Open de tennis des États-Unis à New York.
Journée décisive pour l'Américaine Serena Williams qui ambitionne de gagner le Grand Chelem en remportant ce quatrième et dernier tournoi du circuit majeur. Elle devra pour se faire battre ce soir en quart de finale Venus Williams, un match pour le moins difficile pour les deux sœurs. Autre quart de finale dames aujourd'hui, le choc Kristina Mladenovic et Roberta Vinci. Chez les messieurs, on joue aussi les quarts de finale. Joe Wilfried Tsonga affronte Marin Cilic, le tenant du titre, et Novak Djokovic joue contre Feliciano Lopez.
Éliminatoire de l'Euro 2016 en football, l'Allemagne a pris une bonne option dans le groupe D.
Eh oui, Bagassi, les Allemands sont allés s'imposer en Écosse 3-2 pour remporter leur cinquième victoire consécutive. Dans le groupe F, match nul entre la Roumanie et la Grèce 0-0, de même qu'entre l'Irlande du Nord et la Hongrie, un but partout. Pour l'heure, l'Angleterre, l'Islande et la République tchèque ont gagné leur billet pour ce premier tournoi européen à 24 équipes qui sera organisé en France, assuré de participer en tant que pays organisateur.
Et puis toujours en football, le championnat d'élite du Cameroun a rendu son verdict.
À la faveur de la 34e journée jouée dimanche et lundi, Coton Sport de Garoua termine en tête pour son troisième titre consécutif et son 14e au total. Mauvaise nouvelle pour les fans du Canon, ce mythique club de la capitale camerounaise Yaoundé évoluera en deuxième division la saison prochaine.
Terminons, Timothée, par l'athlétisme avec la fin de saison pour Usain Bolt.
De nouveau triple champion du monde de sprint en août à Pékin, le sprinteur jamaïcain a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa saison avec l'objectif de conquérir 3 médailles d'or au JO de Rio 2016. « Je vais apprécier cette petite pause avant de reprendre l'entraînement le mois prochain », a écrit sur son compte Facebook le champion du monde à 11 reprises et sextuple médaillé d'or aux Jeux Olympiques.
Merci Timothée.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura au micro. Le Monde aujourd'hui place maintenant au dossier du jour. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré se poursuit devant les chambres extraordinaires africaines malgré son refus de s'exprimer ou de faire assurer sa défense. L'acte d'accusation, lui, hier, fait état d'arrestation arbitraire, de torture et d'exécution sommaire dans un livre publié en 2014 et intitulé « Le camion à cabine jaune de Hissène Habré ». Le tchadien Mahamat Youssouf Ali accuse l'ancien président d'avoir intercepté et massacré en 1982 73 personnes fuyant la ville de Moussoro dans le nord du pays. On écoute le témoignage de Mahamat Youssouf Ali.
Hissène Habré, quand il est passé pour prendre le pouvoir de N'Djamena, il était en rébellion pendant 7 ans. Donc, il a passé par la ville de Moussoro, qui se situe entre le Grand Bété et le capital N'Djamena. Donc, lorsqu'il est venu à 5 kilomètres de cette ville, les habitants de cette ville ont fui, tous ont fui. Il connaissait déjà Hissène Habré à l'époque quand il était sous-préfet à Moussoro en 1963. Le premier président Tambou Baye, il connaît, c'est un criminel, c'est un cruel, un racunier. Et la grande partie de cette population est favorable au régime qui était en place, le régime de Boukouni Wadeï. Ils ont fui surtout les coins de commerçants et des étudiants. Ils ont fui vers N'Djamena, qui était sous contrôle du gouvernement d'Union nationale, de Boukouni Wadeï, qui était président. Leurs partisans, ils ont informé Hissène Habré, et Hissène Habré a intercepté à 150 km de capitale ces gens avec 3 véhicules. Et ils ont amené à Moussoro, ils ont enfermé 3 jours et après ils ont séparé le véhicule. Donc l'un des véhicules s'appelle le camion à camion. Il a envoyé vers le désert dans sa région natale. Il a discuté en bout portant, escorté par la police et la sécurité et la gendarmerie.
Pourquoi est-il important de revenir sur cet épisode?
C'est important pour nous parce que Hissène Habré veut finir, dans un premier temps, finir avec toute la population de Bar al-Ghazal de Moussoro. Les gens qui battaient sous Boukouni Wadeï, c'est le Gouram, c'est le Kreda. Donc les autres nous connaissent que nous, si on est à toujours, ces gens existaient. Donc il ne va pas se maintenir au pouvoir. Là, il le sait, il était sous-préfet de cette ville. Donc pour cela, il a éliminé ces gens. Et aussi, il veut aussi couper l'aide de la Libye qui passait par cette ville, aller au gouvernement d'Union nationale.
Hissène Habré refuse de reconnaître les chambres spéciales africaines chargées de le juger. Et qu'est-ce que cela pose comme problème?
Moi, je pense que justement, ça ne pose pas de problème. C'est une institution qui est tenue par les Africains. Et que les Africains, on se plaigne aussi de dire que le CPI, c'est fait tellement pour le, on le juge seulement les Africains. Et qu'on a mis cette juridiction en place pour juger les Africains. Ils ont commis des crimes contre lui, c'est pas lui seul. Les autres viendront après un à un. C'est ça, moi, je pense que si le Sénégal arrive à juger ce criminel Hissène Habré, c'est une victoire pour l'Afrique et pour le Sénégal et pour l'Afrique entière.
Voilà, le Tchadien Mahamat Youssouf Ali joint à Montréal au Canada par Timothée Donangmaï.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le mois de septembre ne sera d'aucun repos pour le gouvernement béninois. Il doit faire face à plusieurs mouvements de grève des partenaires sociaux. Et ce sont les magistrats qui annoncent les couleurs avec une grève de 72 heures qui démarre ce mardi. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Les magistrats renouent avec les grèves perlées. Ils ferment les portes des tribunaux à compter de ce mardi. La motion de grève est parvenue au ministre de la Justice depuis le 31 juillet dernier. Au cœur de ce point levé des magistrats en signe de contestation, la récupération clandestine par le gouvernement du concours de recrutement de 40 auditeurs de justice.
Diverses tentatives de récupération du dit concours ont été orchestrées et exécutées sans succès sous les anciens gardes des Sceaux. C'est dans ce contexte, alors qu'elle a été suffisamment avisée par le bureau exécutif de l'UNAMAB, que le garde des Sceaux, sur le fondement de la loi portant statut général des agents permanents de l'État, s'est associé à ses homologues de la fonction publique et de l'enseignement supérieur pour signer un arrêté interministériel à l'effet de retourner l'organisation du concours des auditeurs de justice dans le giron du ministère de la fonction publique. Pour garantir la transparence du concours de recrutement des auditeurs de justice.
Et si après cette grève d'avertissement, la situation restait identique jusqu'au jeudi 10 septembre, les magistrats prévoient passer à la vitesse supérieure en passant à un mouvement de paralysie des cours et tribunaux béninois de 5 jours par semaine, tacitement reconductible jusqu'à satisfaction totale. Les populations se désolent déjà de la situation quand on sait que certains acteurs de la société civile, à travers des communiqués, apportent déjà leur soutien au mouvement de débrayage des magistrats.
La grève des magistrats a d'énormes conséquences sur le système judiciaire, puisque d'abord il va contribuer à le ralentir. Cela va d'un simple établissement d'extrait de naissance ou de casier judiciaire jusqu'au jugement des prisonniers, des condamnés et tout ça. Donc franchement, je crois que avant toute grève, pour ces gens de secteur, il faut vraiment réfléchir sur la manière d'aller en grève.
La grève dans le secteur judiciaire est une chose que je qualifierais d'abord de très tragique parce que dans un État qui se respecte, il est inconcevable qu'on observe ce genre de phénomène. Un pays qui fonctionne sans organes judiciaires, sans juridiction, un pays où tout est au ralenti pratiquement.
Rappelons que l'Union nationale des magistrats du Bénin est contre ce concours de recrutement de 40 auditeurs de justice prévu pour les 28 et 29 novembre prochains du fait des risques de fraude qui entourent son organisation. Lesquels risques sont liés aux velléités de récupération du concours par certaines personnes sous des motifs au relent régionaliste. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
La 13e journée mondiale de la médecine traditionnelle africaine a eu lieu la semaine dernière. Au Cameroun, ce secteur est menacé par des imposteurs qui s'improvisent en traduits praticiens sans véritable expertise. La situation préoccupe les autorités sanitaires de ce pays, d'autant que 80% de la population fait recours à cette branche de la médecine. Reportage à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
La médecine traditionnelle qui assure pourtant les soins de 80% des Africains selon l'OMS est menée par les nombreux problèmes, dont le phénomène de faux traduits praticiens. Les populations s'en offusquent. Rike Egula, résident de Yaoundé.
La médecine traditionnelle, pour moi, est l'une des meilleures médecines au monde. Mais actuellement, il y a trop d'imposteurs. Il y a ceux qui s'autoproclament traduits praticiens alors que ce sont les charlatans. Et ça fait qu'actuellement, beaucoup de personnes ont peur maintenant d'aller vers les traduits praticiens. Quand je dis vers les traduits praticiens, je parle bien sûr des vrais traduits praticiens.
Les traduits praticiens sont les premiers à avoir diagnostiqué le mot dont souffre la médecine traditionnelle au Cameroun. Une thérapie appropriée est d'ores et déjà mise au point. Arthur Bellinga est traduit praticien.
On est conscient que notre milieu est infesté, la médecine traditionnelle, par des faux traduits praticiens. Ils sont nombreux, ces arnaqueurs, qui promettent la guérison aux patients, mais qui ne tiennent pas toujours parole. C'est justement pour écarter ces arnaqueurs que nous avons décidé de nous regrouper en association des vrais traduits praticiens. Nous échangeons nos expériences, nos découvertes.
En dépit des intrusions malsaines, la médecine traditionnelle connaît des avancées significatives. Elle fait désormais bon ménage avec la médecine moderne. Le professeur Arthur Essomba est le directeur des soins au ministère de la Santé publique.
La médecine traditionnelle est basée sur la connaissance du patrimoine herboristique. Un certain nombre de médicaments, même dits modernes, sont issus des plantes traditionnelles. traditionnelle. Il y a donc une connaissance de l'herbier, on parle d'herbier national, qui peut être utile pour pouvoir traiter les populations camerounaises.
Toujours dans le registre des avancées, la médecine traditionnelle camerounaise a son mot à dire sur la scène africaine. Cela a été souligné à grands traits lors des festivités marquant la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébré sous le prisme de la réglementation du tradit praticien, un thème qui épouse bien l'air du temps au Cameroun. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Des centaines de jeunes filles mauritaniennes qui avaient reçu des promesses d'emploi en Arabie Saoudite se sont retrouvées piégées. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une véritable traite de la personne. Notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia, a rencontré Maria Taba, qui a échappé à ses employeurs.
Je pensais que j'allais seulement travailler tranquillement dans le pays du prophète Mohammed, pays d'humanisme. On m'a dit au départ que j'allais seulement garder les enfants. Une fois sur place, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. C'était plutôt un travail de domestique.
Maria Taba, une trentaine d'années, est allée en Arabie Saoudite. Elle y a passé une vingtaine de jours. Nous l'avons rencontré à la périphérie de Nouakchott. Des agences de placement semi-clandestins lui avaient promis un emploi de babysitter. Elle s'est retrouvée domestique à tout faire.
Ma patronne a commencé à me menacer. Elle me réveillait à tout moment. Je montais les escaliers pour nettoyer les murs. Je faisais tout ce qu'elle voulait. J'ai demandé seulement un peu de sommeil, même si je ne mange pas, car je souffre d'hypotension.
L'alerte sur le sort des Mauritaniennes employées en Arabie Saoudite a été donnée par l'AFCF, Association Mauritanienne des Femmes Chefs de Famille. Ces jeunes filles, domestiques à tout faire, subissent aussi des violences sexuelles. Aminatou Mint Mokhtar est présidente de l'AFCF.
Elles sont maltraitées, battues, insultées par la famille, la femme, violées parfois par le mari.
L'AFCF, avec les familles de certaines victimes, a porté l'affaire devant la justice mauritanienne. 13 filles ont été rapatriées, mais le dossier n'est pas encore clos. Aminatou Mint Mokhtar.
Nous sommes déterminés à continuer le combat pour que toutes les femmes viennent et pour que le trafic s'arrête en Mauritanie et pour que cette question soit vraiment étudiée et soit régularisée par la justice d'une manière qui satisfait les victimes.
Les organisations mauritaniennes de lutte contre l'esclavage sont elles aussi saisies de la question. La majorité des filles envoyées en Arabie Saoudite, en effet, sont ici de familles d'origine servile. La présidente de l'AFCF, qui est aussi membre de l'ONG SOS Esclaves, entend continuer le combat.
La justice n'est pas faite et tant que ces femmes ne sont pas revenues toutes, nous n'acceptons pas de baisser les bras. Nous continuons à lutter.
Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
La mer a fait des siennes ces derniers jours à Dakar et plusieurs localités environnantes. Des habitants ont perdu leur maison et ont été logés dans des centres d'accueil provisoires. Une situation qui découle de la forte agression dont est victime le littoral sénégalais. On fait le point tout de suite avec Sokhna Nata Mbaye.
L'ouragan Fred ne s'est pas attardé sur les côtes sénégalaises, mais la forte houle a causé énormément de dégâts ces derniers jours. De la corniche est à la corniche ouest de Dakar, les victimes se signalent. Sur le quai de pêche de Soumbidjoun, des pêcheurs impuissants face à la furie des vagues.
Il y a un phénomène qui s'appelle le Sambara. C'est un phénomène ADL. Chaque année, on le vit. C'est un passage qui élimine toute activité maritime.
À Yarar, un quartier de pêcheurs, maisons, usines et pirogues, rien n'a été épargné. Monsieur Gueye a perdu une partie de sa fabrique. Difficile d'évaluer les pertes pour le moment.
C'est du matériel d'usine, c'est des machines. Et c'est tout ça, je crois qu'il faut maintenant à tête reposée faire le bilan. Mais à vif comme ça, on ne peut parler que de millions. Mais combien exactement, c'est difficile à dire maintenant.
À quelques encablures de là se trouve la commune de Mbao. Celle-ci n'a pas non plus été épargnée par la mer. Abdoulaye Pouille, le maire.
À Mbao, il y a beaucoup de maisons qui ont été cassées.
Des centaines de personnes sont dehors. Ça, c'est un cri de cœur pour que l'État vienne.
Justement, le Premier ministre s'est rendu sur les sites concernés. 11 millions de francs ont été décaissés et 60 tonnes de riz offertes pour assister les sinistrés. Mais le chef du gouvernement n'a pas manqué de souligner la responsabilité des populations. Mohamed Boun Abdallah John.
Nous avons vu des constructions, des maisons détruites se trouvant à un mètre de l'océan. Nous allons travailler pour trouver des solutions urgentes, d'abord à travers la loi sur le littoral.
Ali Haïdar confirme, il est écologiste et ancien ministre de l'écologie.
Quand on traverse une tempête, quand on traverse une zone de turbulence, tout dépend de l'état dans lequel elle nous trouve. Elle a trouvé un état de notre littoral qui est lui-même agressé par les humains. Le prélèvement du sable sur les plages, la coupe abusive des arbres du littoral. Il y a le moyen terme, il y a le long terme. Sur le moyen terme, je pense qu'il est important quand même que nous ayons un comportement respectueux vis-à-vis de l'environnement.
La loi sur le littoral, on en parle depuis 2011, mais toujours rien. Ces derniers incidents climatiques sont une première. En seulement 2 jours, la mer a fait plus de dégâts que ces dernières années réunies. Certes, les victimes réclament plus que quelques tonnes de riz, mais leur part de responsabilité est plus importante. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout donc pour cette édition. Anne Alberson a dirigé la mise en onde, présentation Bagassikora. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.